Les Voix de l'Alma, dernière édition de la saison pour l'actualité des libraires montalbanais avec aujourd'hui Maurice Beau. Bonjour Maurice.
Bonjour, toujours sur place.
Jacques Griffaut. Bonjour Jacques.
Bonjour.
En pleine préparation de Place aux Nouvelles, toujours.
Oui, oui, absolument.
Et Philippe Bernadou de la librairie de Loche. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
Alors, l'auteur du mois nous est présenté par Jacques Griffaut.
Oui, et ce sera France Bartel, parce que j'ai pensé que c'était un auteur tout à fait agréable à lire durant l'été. France Bartel, il est né en 49, dans la région Normandie, au sud de Rouen, mais c'est dans les Ardennes, la région d'Arthur Rimbaud, que s'est installée sa famille Bartel. Dans ce pays où l'on n'arrive jamais, cher André Dautel, qui lui a inspiré l'amour de la terre, brune, humide, inquiétante, enivrante, mais aussi l'amour des gens qui y vivent, ces gens un peu bourrus, sympathiques, prolos, paysans, bistrotiers ou femmes au foyer. Un endroit prédestiné pour le jeune Franz, qui apprend à lire dans les romans policiers que dévore sa mère, et il commence à écrire à l'âge de 13 ans. Un an plus tard, à 14 ans donc, il quitte l'école et gagne sa vie en enchaînant des petits boulots. À 19 ans, il entre dans une usine de transformation de papier, un autre lieu symbolique pour l'écrivain qu'il est en passe de devenir. En 80, il s'installe dans la vallée de la Goutelle, à Nouzonville, près de Charleville-Mézières, et se consacre à l'écriture. Pendant 5 ans de labeur, au rythme des 3-8, il aligne 2 volumes par an, sans se soucier de se faire publier. C'est à partir de 84 qu'il va faire de l'écriture son unique moyen de subsistance. Il est poète, il écrit des nouvelles, il écrit des pièces de théâtre qu'il donnera à France Culture, il écrit des chroniques estivales aussi dans un journal local qui s'appelle L'Ardennais. À partir de 95, il connaît enfin la consécration avec la publication de ses romans, qui sont tous applaudis par la critique et certains sélectionnés même pour des prix littéraires. Pour ce qui me concerne, c'est avec Le Jardin du Bossu, un polar paru dans la série noire, que j'ai découvert France Bartel. Un choc. Un polar déjanté, avec une intrigue très tenue, une écriture vive, riche, innovante, bref, un grand moment. Et alors depuis, eh bien, je me jette avec gourmandise sur tous les livres de France Bartel et à chaque fois je suis bluffé. Je suis bluffé par le champ immense de son imagination, par sa capacité à écrire aussi bien des nouvelles que des romans, des essais, des chroniques. En effet, quoi de commun entre Plutôt le dimanche, ou Nulle part mais en Irlande, ses chroniques de la vie dans les Ardennes et en Irlande, Terrine Rimbaud, une histoire, l'histoire de Jovedi Merdouilla, qui n'était pas un poète comme les autres. Jovedi Merdouilla. Bon, malheureusement, Terrine Rimbaud est épuisée, mais si vous le trouvez chez un bouquiniste, Maurice, si jamais tu le vois passer, faut absolument le prendre. La belle maison, offerte de force à des marginaux qui vivaient leur pauvreté sans souffrance et qui vont se trouver complètement déplacés dans cette belle maison. Les nœuds, qui racontent les dernières heures d'une dynastie de fabricants de cordes à nœuds. Ou encore, Histoire molle, une des nouvelles du Bar des Habitudes qui met en scène Guy Vouin, qui était mou de naissance. Tous ces textes ont en commun un plaisir de lecture jubilatoire et constamment renouvelé. Alors le risque, parce qu'il y en a un, je vous préviens tout de suite, c'est qu'une fois que vous aurez lu un livre de Franz Bartel, ben vous voudrez dévorer toute son œuvre. Et alors vous savourerez ainsi des textes délectables, à la fois drôles, cocasses, burlesques, mais aussi tendres et parfois douloureux. C'est un écrivain virtuose, très talentueux, aux multiples facettes, à découvrir d'urgence. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il sera cette année, le 9 septembre, à Lauzerte, pour Place aux Nouvelles. Il était déjà venu l'année dernière, et il reviendra cette année. Vous savez qu'à Place aux Nouvelles, en partie, on demande à chaque auteur de lire pendant un quart d'heure de ses nouvelles. Surtout, ne le ratez pas, car c'est toujours un grand moment. France Bartel.
Merci Jacques Griffaut. Le premier coup de cœur de cette édition de juillet des Voix de l'Alma, il est pour vous, Philippe Bernadou. C'est une sérénade d'Ibrahim Santos.
De Yamen Manaï. Quand il a su que j'allais parler de ce livre, Jacques, ici présent, m'a écrit « Je vous rejoins dans l'éloge de la sérénade d'Ibrahim Santos. Il faut le faire connaître. » Nous allons nous y employer donc. Nous sommes à Santa Clara. C'est quelque part en Amérique du Sud. Une ville où, au cours des siècles, se sont agglutinés des Espagnols, bien sûr, des pionniers, des Noirs, des Arabes, des Juifs, des Gitans, réunis tous par l'amour du rhum qui y coule à flot. Ce rhum, malheureusement, va atterrir sur le bureau du président général de ce pays, qui immédiatement va vouloir en faire le fleuron de la nation. Pour cela, il missionne un jeune agronome frais émoulu de l'Académie agricole de la Révolution. Ça aurait pu être l'École nationale d'agriculture, n'est-ce pas, l'ENA, Et cet agronome accompagné, bien sûr, encadré par un détachement militaire chargé de mettre au pas la population frondeuse de Santa Clara et ses méthodes de production. On devine le succès que cela va avoir. Il faut dire à ce moment-ci que ce livre n'est pas écrit par un auteur latino-américain. Yamen Manai est tunisien. Il a écrit son roman sous la dictature de Ben Ali, et cela a été publié par un éditeur tunisien lui aussi, Elizad, au premier jour du printemps arabe. C'est bien sûr un hommage fou à la littérature sud-américaine, et à travers cela, c'est une célébration de la tolérance, du cosmopolitisme, de l'humanisme en un mot, et aussi bien sûr de la musique, puisque le personnage du titre, Ibrahim Santos, a le don de prédire le temps au moyen de ses sérénades. Un des chapitres est introduit par la citation de Nietzsche « Sans la musique, la vie serait une erreur ». J'ajoute que c'est d'une drôlerie continue, d'une intelligence subtile, un voyage au travers de plusieurs cultures que l'auteur semble pleinement posséder. Alors oui, Jacques, il faut le faire connaître. Chers auditeurs, précipitez-vous, vous nous en serez reconnaissants et surtout vous en serez reconnaissants à Yamen Manai. La sérénade d'Ibrahim Santos chez Elizad.
Merci Philippe Bernadou. Maurice Beau, quel est votre coup de cœur ?
Mon coup de cœur est pour une relecture d'un ouvrage de Nicolas Bouvier, Journal d'Aran et d'autres lieux. C'est pas tout nouveau, ça a été édité dans les années, enfin au début, en 90 plus précisément. Nicolas Bouvier, cet écrivain voyageur, photographe, qui est décédé depuis une dizaine d'années maintenant. Et on l'a découvert en 1963 avec L'usage du monde, puis Le poisson scorpion. Et en 89, les chroniques japonaises, pour ce que je me souviens. Et c'est un petit ouvrage, Journal d'Aran et d'autres lieux, qui a retenu mon attention. Je l'avais découvert à l'époque. Il m'avait valu l'envie de partir dans un voyage, un grand voyage pour moi en tout cas, puisque c'est vers ces îles d'Aran que ces feuilles de route de Nicolas Bouvier vous invitent à partir. En ce début d'été, veille de grand départ, pour tous ceux qui n'oublient pas que l'essence du voyage n'est peut-être pas seulement la destination, mais le voyage lui-même, ces îles d'Aran, côte ouest de l'Irlande, battues par les vents, sombres, presque désertes, peuvent être une destination qui a été si bien chantée donc dans ce petit ouvrage par Nicolas Bouvier. Nicolas Bouvier ici regarde, écoute ces Iliens. Ce sont des gens qui eux aussi sont souvent de retour de voyage, comme tout bon Irlandais. Ces gens-là descendent des moines planteurs de vignes et semeurs d'abbayes, navigateurs en auge de pierre, bourrés de foi et de santé, qui défrichèrent, selon toujours l'auteur, qui défrichèrent la moitié de l'Europe. Donc c'est un ouvrage aussi, vous pouvez continuer bien sûr et achever sa lecture, il y a d'autres îles comme ça qui vous sont proposées, et Nicolas Bouvier, d'une certaine façon, au moins dans ses feuilles de route, tire des traits d'union entre ces îles, d'une lecture à l'autre. Donc je vous le recommande chaudement, c'est à cette excellente collection Voyageurs Paillot, sous la direction de Michel Lebris. Je crois savoir, et là des libraires conforteront peut-être le bouquiniste qui est souvent en manque d'actualité, je crois savoir que Nicolas Bouvier a une autre actualité actuellement en librairie, puisqu'on a ressorti d'autres feuilles de route accompagnées de ces de photographies inédites.
Exactement, sous le titre Il faut partir, si je me souviens bien.
Voilà. Donc... Bien, rendez-vous donc à vos lectures.
Voilà, Journal d'Aran et d'autres lieux. Jacques Griffaud, on revient vers l'auteur du mois avec vous, Franz Bartel.
Oui, parce que Franz Bartel vient de sortir un livre, Le Testament américain, et c'est un concentré, c'est vraiment du pur jus de Franz Bartel. Alors, a priori, il n'y a rien à dire sur Neuville. Neuville, c'est un village qui est réputé dans le département comme le bout du monde, un coin redoutablement perdu. Mais cependant, ce village peut se flatter d'avoir vu naître, dans des circonstances assez particulières, un richissime Américain qui s'appelle Clayback Darwin. Clayback Darwin, à la suite du crash de l'avion de ses parents, il a vu le jour sur le comptoir de l'épicerie entre des sacs de grains, des bidons d'huile et des kilos de farine. Et il a été de son vivant très généreux avec la commune. Il leur a offert une piscine, une salle polyvalente, et même un phare de haute mer de 40 mètres de haut, alors que Neuville est à plusieurs centaines de kilomètres de toute mer. Mais, comme le disait Clébac Darouin, il n'y a pas d'oranger à Neuville. Pourtant, vous avez des oranges dans vos corbeilles à fruits. Il n'y a pas la mer, je vous le concède. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas la mer qu'il faut se priver du bonheur d'avoir un phare. C'est d'une logique absolument fabuleuse. Alors, ce Clébac Darouin, aussi, il avait décidé d'être enterré dans son village natal. Et à cette fin, il avait acheté des hectares de plaines et de forêts, au milieu desquels il a fait construire son tombeau, une construction qui est plus massive que l'église, dans un style qui était la synthèse du Bauhaus, de la Renaissance italienne et du kitsch hollandais. Et par testament, il a légué à chaque famille de Neuville un tombeau, presque aussi somptueux que le sien, comprenant autant de chambres mortuaires que de membres de la famille, érigé en marbre et matériaux rustiques, avec de larges baies vitrées, éclairant les sarcophages destinés à recevoir les cercueils. Pas question d'aller contre les dernières volontés du mort, clame le maire. Même si l'un des concitoyens, qui s'appelle Marron tout seul, voit pas trop ce qu'il y a à gagner là-dedans. Quand on est mort, je sais pas si c'est important d'être mal logé. Le nouveau cimetière est considéré comme propriété privée, et il est interdit aux curieux qui parfois viennent de loin et qui se fâchent. Il est alors décidé de créer un périmètre de sécurité avec triple rang de fil barbelé. Des patrouilles sont organisées de jour comme de nuit pour neutraliser les éventuels contrevenants. Mais certains habitants emménagent dans leur tombeau, qui est bien plus confortable que leur maison délabrée. D'autres en usent comme résidence secondaire le samedi et le dimanche. Et pendant ce temps-là, la vie à Neuville continue. Napoléon Belœil, qui est célibataire, qui a tardé à jeter son dévolu sur une personne convenable et qui veut tout de même pas attendre la prochaine fille à marier, qui n'a que 13 ans pour le moment, il se laisse circonvenir par la veuve du meunier, une friponne qu'il friponne à la demande. Odette, la femme du maire, le maire qui s'était affaissé tout d'un bloc en prononçant l'éloge funèbre de Clébac Darouin, elle se console, elle, dans les bras de Fricoteau. Et puis un jour arrive Anne-Marie Mingue, la présentatrice du journal télévisé régional, qui est prête à tout pour faire un reportage sur ce nouveau fleuron du patrimoine architectural régional. René Vendrèche, maire par intérim, réputé encore vierge à son âge, arrivera-t-il à convaincre ses concitoyens d'autoriser l'accès du cimetière à cette Anne-Marie? Vous le saurez en lisant. C'est du Franz Bartelt, pur jus, comme je vous le disais, de haute volée, qui flirte vraiment avec le grandiose. Il y a du Marcel Aimé, celui de la jument verte, du Jules Romain, celui des copains, dans ce testament américain, cocasse, roublard, très drôle, savoureux, qui va réjouir tous les nombreux fans de Franz Bartelt, et qui séduira aussi tous les autres, parce que moi, à chaque nouveau livre, il m'a bluffé encore, avec son imagination sans bornes, son écriture vive, innovante, c'est tout simplement jubilatoire, une lecture d'été que je vous recommande vivement.
Le testament américain de Franz Bartelt, Philippe Bernadou, Homer et l'Anglais.
Homer et l'Anglais, ce sont deux prénoms, les prénoms de deux frères. Le narrateur, Homer, est aveugle. Mais la musique et son amour des femmes illuminent ses jours. Son frère, lui, l'Anglais, a ramené de la guerre de 14 sur la frontière belge des branches brûlées à l'hypérite. Il a ramené aussi un caractère changeant et une manie de l'accumulation qui transforme au fil des ans leur élégante maison de Central Park en véritable Capharnaüm. Ça part au départ d'une histoire vraie, si ce n'est que l'auteur a prêté 20 ans de plus à ses deux frères pour leur permettre de traverser le XXe siècle. Et ainsi, leur vie excentrique devient le point d'attirance de toutes les marges des États-Unis. D'abord les mafieux, bien sûr, des mafieux blessés qui viennent se réfugier dans cette maison où personne n'ose plus rentrer, des immigrés japonais qui passent quelque temps, et bien sûr, pour finir, dans les années 60, les adeptes du flower power, les hippies qui considèrent ses deux frères un peu comme des gourous. On peut lire ce livre comme une parabole de la société américaine, ou disons occidentale, qui croit que posséder c'est exister et qui finit par étouffer sous ses biens de consommation. On peut tout simplement s'abandonner à l'humour désespéré de Doctorow, qui nous entraîne dans l'inéluctable naufrage d'Homer et l'Anglais, sur un tempo de blues déraisonnable. Il ne faut pas oublier que Doctorow est l'auteur de Ragtime. Donc c'est publié chez Actes Sud, ça s'appelle Homer et l'Anglais de Doctorow.
On revient vers vous, Jacques Griffaut, pour un nouveau coup de cœur.
Alors c'est un nouveau coup de cœur, cette fois-ci c'est un polar qui s'appelle Les Anges de New York et c'est un polar de R.J. Ellory. Frank Parrish est inspecteur au New York Police Department, NYPD. Il a la quarantaine, il a deux enfants, Robert 22 ans, Kathleen 20 ans, qui vont tous les deux à l'université et s'en sortent plutôt bien. Il est séparé de sa femme, Claire, une bimbo en talons hauts, qui a obtenu la garde des enfants. Il fréquente Eve, une prostituée, s'est arrangé pour égarer la paperasse lorsqu'elle avait été 3 ans auparavant interpellée pour racolage. Mais pas pour la baiser gratis, hein, mais simplement par empathie. Il a des difficultés relationnelles non seulement avec ses enfants et son ex-femme, mais aussi avec sa hiérarchie. Il vient de perdre son coéquipier dans des circonstances troubles. Il fait l'objet d'une enquête des services internes. Il est contraint de consulter régulièrement une psychothérapeute sous peine de mise à pied immédiate. Ah, j'oubliais, il boit. Vous allez me dire que ça sent bigrement le cliché, tout ça. Eh bien non. Car vite l'auteur, le talentueux R.J. Ellory, qui est auteur de 3 superbes romans noirs, dont je vous rappelle les titres, Seul le silence, absolument formidable, Vendetta et Les Anonymes, qui sont tous parus chez la toute jeune, puisqu'elle n'a que 5 ans, mais excellente maison d'édition Sonatine, nous entraîne dans un suspense permanent et nous offre le portrait déchirant d'un homme en quête de rédemption. Le livre s'ouvre sur une scène intense. Ce jour-là, le 1er septembre 2008, Frank Parrish, sans flingue, sans oreillette, la chemise déboutonnée jusqu'à la taille, sans veste, des traces de dégueulis sur son pantalon, se retrouve devant une baignoire pleine de sang dans laquelle pataugent 2 personnes, Thomas Scott, complètement défoncé, et sa petite amie Heather, qui a une large entaille à la cuisse, faite avec le rasoir de barbier que Thomas tient à la main. Frank, qui ce matin-là se traînait assez lamentablement après une nuit passée à picoler, a été appelé d'urgence. Comme il a déjà arrêté une demi-douzaine de fois Tommy Scott, c'est avec lui et lui seul que Tommy Scott veut parler, menaçant de trancher la gorge d'Heather s'il ne venait pas. « Rien à foutre, Frank !» C'est la dernière phrase que prononcera Tommy avant de tuer Heather et de se trancher la gorge sous l'œil de Frank impuissant. Le négociateur entre dans la salle de bain et lui dit qu'il a merdé et qu'il aurait pu sauver leur vie. Frank se décrit devant sa psychiatre comme un loser agressif, déglingué, alcoolique, avec une vingtaine d'années de carrière au compteur. Et vous pouvez ajouter à ce mélange explosif mon dangereux manque d'estime de soi, mon goût pour les femmes faciles et le whisky hors de prix. Très vite, c'est de son père qu'il va parler, John Parrish, l'un des officiers les plus décorés que ce commissariat ait jamais connu. Son père faisait partie des Anges de New York, c'est le titre du livre. Ces nouveaux incorruptibles, ces flics d'élite, qui, dans les années 80, vont briser la mafia à New York. Mais selon Frank, son père, mort il y a 16 ans, n'est pas du tout le héros légendaire que tout le monde admire, mais un flic corrompu, et peut-être le pire de tous. Frank est embarqué sur une autre enquête. Danny Lange, 25 ans, trafiquant de deuxième ordre, mort d'une balle de 22 dans la tête dans un parking désert. Allongé sur le lit de Danny, au 9e étage d'un immeuble pourri, il trouve une adolescente d'une beauté presque en tout point parfaite, si l'on acceptait la contusion livide à la base de sa gorge. Cette jeune adolescente qui vient d'être tuée, c'est la petite sœur de Danny. Frank va se passionner pour cette affaire qu'il ne laissera pas tomber, persuadé qu'il s'agit d'un crime commis par un tueur en série, ce dont sa hiérarchie doute fortement. C'est un magnifique roman noir, sans esbrouffe, qui est empli d'une grande empathie non larmoyante pour les fracassés de la vie, qui est centré sur le personnage de Frank, donc ce flic cabossé, sans illusion, en proie au doute, hanté par les méfaits supposés de son père, en quête de vérité, envers et contre tout et tous. Les Anges de New York.
Merci Jacques Griffaud. La lecture du mois nous est proposée, comme presque chaque fois, par Philippe Bernadou. Et c'est une lecture d'un texte de Bérengère Cornut.
C'est une petite nouvelle, effectivement, extraite d'un recueil qui s'appelle « Chasse la mythe ». Ça s'écrit S-C-H-A-2-S-L-A-M-I-2-T. Et c'est le titre d'une des nouvelles, « Chasse la mythe ». C'est le nom donné à un chat, c'est l'ordre qu'on donne au chat. « Chasse la mythe, chasse la mythe ». Le texte que je vais vous lire s'appelle « Mélanie ou Henriette ». 0h00, un chiffre rouge. Il fait une chaleur confortable. Ça me pique un peu le ventre, mais si je m'ajuste, la piqûre glisse puis s'apaise. Ça sent un peu fort ici. Pas désagréable pour autant. Je n'aurais certainement pas dû me réveiller, il fait encore nuit. Mais je n'ai pas envie de dormir. Si je ferme les yeux, ce ne sont pas les brumes du sommeil qui m'envahissent. C'en sont d'autres que je connais bien, et elles ne mènent pas au repos. À quoi bon insister? Je tourne un cou que je juge assez souple et vois entre les planches disjointes du toit qui couvre ma tête le halo d'une demi-lune. Les heures passent, me semble-t-il, et je ne me lasse pas du spectacle. La lumière se déplace infiniment lentement, pénétrant plus ou moins faiblement dans l'abri. Abri dont je n'arrive pas encore à déterminer la nature. Rien de tel dans mes souvenirs. Mais ai-je à proprement parler des souvenirs? Je remets à grand-peine mon simple nom. Mélanie, peut-être? Ou Henriette? L'un des deux, c'est sûr. Il faudra au moins savoir ça au matin. En tout cas, j'ai bien chaud sous les bras. Je ne les sens pas tellement, je ne sais pas bien quoi en faire, mais j'ai bien chaud dessous. Et je vois aussi, très bien même. Je vois bien rond, bien net, bien clair. Pas aussi satisfaite de Louis, en revanche. Je devine un vague murmure, quelques frottements peut-être, rien de très distinct. Mais après tout, y a-t-il quelque chose à entendre? Ah, voici les premières lueurs du jour. Des masses s'agitent et se dandinent autour de moi. Mon corps lui-même a d'étranges spasmes, tandis qu'un coq émerge en hurlant à un mètre de là. La porte de l'abri s'ouvre, une main vient se poser sur le compteur aux chiffres rouges, et un fermier ensommeillé paraît un seau de grain à la main. Me levant sur mes pattes, je découvre un œuf. Je suis une poule et on est dimanche. Béatrice Cournu, Chasse la mythe, chez Attila.
Voilà, les références des ouvrages qui vous sont proposés dans l'émission des libraires montalbanais, Les Voix de l'Alma, eh bien vous les retrouvez, ces références, sur le site leslibrairiesmontauban.fr, librairie étant au pluriel, et puis le podcast de cette émission, bien sûr. Et sur cfmradio.fr. Un site, je crois, qui a changé d'ailleurs un peu récemment, Jacques Griffaut.
Oui, le site a été complètement relooké. Il a été complètement revu, refait par Hugues Dodi, qui était l'ancien libraire du comptoir de Sildavie, et qui a beaucoup de talent dans ce domaine. Je crois que c'est un site qui est de plus en plus agréable à regarder. Il est d'ailleurs de plus en plus regardé. Et pour les libraires aussi, il est assez facile d'usage, c'est-à-dire que on peut y mettre assez facilement tous nos événements, nos rencontres, mais aussi nos coups de cœur, les livres qu'on a lus et qu'on a aimés. Et donc, vous avez sur le site véritablement un grand choix de lecture pour l'été.
Et grâce à ce nouveau site, l'Alma maintenant est présente sur Facebook, sur Twitter, et il y a un blog où vous pouvez intervenir, bien sûr, sur donc librairiemontauban.fr.
Et à toute page, il y a la présence de notre partenaire favori, CFM Radio.
Et donc, évidemment, on fait un lien sur CFM Radio vers librairiemontauban.fr et inversement. Encore un petit peu d'actualité du côté des Voix de l'Alma, Maurice.
Oui, puisque, en effet, je reprends un appel à écriture pour tout le monde, donc sur le thème « À l'air livre, votre livre, air d'envol ». Donc, l'Association des libraires de Montauban et leurs amis vous invite à témoigner d'une expérience personnelle de lecture. Alors, une lecture a particulièrement ouvert votre horizon, vous engageant dans une rencontre, un voyage, une pensée, un imaginaire. Racontez cette aventure en trois lignes ou trois pages sous la forme de votre choix. C'est peut-être un poème, une nouvelle, un conte, un récit. Le choix vous appartient. Donc, ce n'est pas un résumé de votre lecture que nous voulons, c'est vraiment votre expérience. Et dès à présent, envoyez-nous votre texte par mail sur le site librairiemontauban.fr ou confiez-le à un des libraires ou bouquinistes de Montauban. Nous en choisirons pour les exposer dans nos vitrines et les partager en lecture publique au cours d'une soirée offerte à la médiathèque municipale et pourquoi pas au cours d'une promenade déambulatoire. Nous vous tiendrons informés en lieux et dates. Voilà. Et n'oubliez pas que les livres et les lieux qui les abritent sont des espaces où souffle la liberté.
Merci Philippe. Allez, on fait un tour de table pour rappeler les titres des ouvrages que vous nous avez présentés. Il reste quelque chose, Maurice ?
Je voulais juste signaler dans la librairie Beaux Livres, Place Nationale, donc la prolongation de l'exposition pour l'été, l'exposition de Jean-Claude Fournier. Jean-Claude Fournier fait tourner les têtes, en d'autres termes, portrait d'auteur en hauteur, puisque ce sont de très grands portraits donc d'écrivains, penseurs, que je mets sous les voûtes de la librairie. Camus et Sartre ont rejoint Nietzsche, Sioran, Deleuze, Ferré et bien d'autres. Et comme il y a peu de place, eh bien, on fait tourner les têtes, donne des têtes nouvelles toutes les semaines grâce au talent de ce peintre hors du commun, Jean-Claude Fournier.
Merci Maurice. Allez, les titres des livres que vous nous avez présentés, Jacques Griffaut.
Alors, Le Testament américain de Franz Bartels, c'est publié chez Gallimard. Et Les Anges de New York de R.J. Ellery, c'est publié chez Sonatine.
Philippe.
Le livre dont nous souhaitons faire le succès de l'été, Yamen Manaï, la sérénade d'Ibrahim Santos, aux éditions Elisade. Doctoro, Homer et l'Anglais, c'est publié chez Actes Sud. Et la lecture, c'était Bérangère Cournu, Chasse la mythe, chez Attila.
Maurice Beau.
Je vous ai parlé de mon coup de cœur, Nicolas Bouvier, pour Journal d'Aran et d'autres lieux. Ces feuilles de route sont aux éditions Voyageurs Payot.
Merci messieurs, c'était la dernière édition de la saison des Voix de l'Alma. Je vous souhaite de passer un bel été et je vous donne rendez-vous, pourquoi pas le premier mardi de septembre.
Pourquoi pas.
Hein. Bonnes vacances.
Bonnes vacances.
Et bonne lecture.
À bientôt.